Il est 19h30 en temps universel. À la présentation, Nanit Talani. Bonsoir, madame, monsieur. Bienvenue dans le monde. Aujourd'hui, voici le menu de ce journal. Les États-Unis se félicitent d'une trêve humanitaire de 2 semaines dans l'est de la RDC. Le président sortant mauritanien Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani, proclamé officiellement vainqueur de la récente présidentielle. Naufrage d'une embarcation au Soudan, 25 personnes tuées. Au Niger, l'armée riposte à une attaque meurtrière et tue plus de 100 terroristes. Barbecue, parade, feu d'artifice, les Américains célèbrent leur indépendance. En économie, le Nigeria approuve 2 ventes d'actifs onshore par des compagnies pétrolières internationales. Et en sport, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Tout à l'heure, les différents groupes des pays concernés. Puis dans les magazines, nous irons au Cameroun où l'opposition et le gouvernement sont à couteau tiré avant les élections de l'an prochain. En attendant, voici le journal. Les États-Unis se félicitent d'une trêve humanitaire de 2 semaines dans l'est de la République démocratique du Congo, au milieu de violents combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23, a déclaré ce jeudi la Maison Blanche. La trêve doit débuter ce vendredi à minuit heure locale et se poursuivre jusqu'au 19 juillet dans les zones où le conflit affecte le plus les populations civiles, a indiqué la Maison Blanche. Toujours concernant la RDC, des experts de l'ONU alertent sur une augmentation alarmante de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle dans l'est du pays. Les experts se disent alarmés par les informations faisant état d'une traite généralisée des personnes, en particulier à des fins d'esclavage et d'exploitation sexuelle, et d'une augmentation des mariages d'enfants et des mariages forcés en raison notamment du conflit et des déplacements de population dans l'est de la RDC. Ces experts expriment aussi leur inquiétude quant à la fermeture de la mission de l'ONU dans le pays. L'armée nigérienne affirme avoir tué plus de 100 terroristes lors d'opérations aériennes et terrestres toujours en cours. Elle soutient que c'est en réponse à une attaque djihadiste qui a tué 20 militaires la semaine dernière. Les précisions avec Yakuba Ouedraogo.
L'armée soutient que les opérations terrestres et aériennes se poursuivent pour neutraliser le groupe terroriste responsable de l'attaque de Tassia. Le 25 juin, 20 soldats d'une opération antiterroriste et un civil ont été tués dans une attaque menée par une coalition de groupes armés près du village de Tassia dans le département de Téra. Plusieurs dizaines de terroristes sont morts lors de la riposte, indique l'armée nigérienne, qui avait dit avoir tué quelques jours plus tôt un membre influent du groupe État islamique. Entre dimanche et mercredi, un raid à Kolma et des fouilles sur des marchés de Dougouro et Bankilare, 3 localités situées dans la zone de Téra, ont permis de neutraliser 8 terroristes et d'en arrêter 19 autres selon l'armée. Le département de Téra est situé dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Téra est aussi le lieu de passage de milliers de camions de fête du Niger, arrivant chaque mois du port de Lomé, au Togo, via le nord du Burkina, sous escorte des armées des 2 voisins.
Au Togo, l'opposition demande pardon au peuple pour ses erreurs et divisions. Des facteurs qui, selon les leaders de l'opposition, les ont conduits à des échecs politiques dans leur combat pour une alternance politique. Le point avec Alexandrine Holognon.
Le peuple a tout donné, mais les leaders de l'opposition ont péché, raison pour laquelle nous lui demandons pardon, a déclaré Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, à la fin d'une conférence débat mercredi sur la nouvelle constitution contestée. Nous disons aux Togolais que nous avons pris une nouvelle orientation dans la sincérité et dans la cohérence pour renforcer notre crédibilité, a promis Nathaniel Olympio. La rencontre était organisée par la coalition « Touche pas à ma constitution », un regroupement de partis et d'organisations de la société civile. La nouvelle constitution, adoptée définitivement le 19 avril et promulguée le 6 mai, a fait basculer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et dans une 5e République où le pouvoir sera désormais concentré entre les mains d'un président du Conseil des ministres. Ce président du Conseil ne sera pas élu, mais le poste reviendra automatiquement au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, c'est le parti de l'actuel président Fornia Singbe qui a largement remporté les dernières élections législatives en avril avec 108 sièges sur 113. Pour l'opposition, Ce changement constitutionnel est une manière pour Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir et de perpétuer la dynastie familiale, car il a succédé à son père qui avait dirigé le pays pendant près de 38 ans.
Au Soudan, environ 25 personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation alors qu'elles tentaient de fuir les combats opposant les forces paramilitaires et l'armée dans le sud-est. Pendant ce temps, les paramilitaires soutiennent ce jeudi avoir pris le contrôle d'une base militaire stratégique près de la frontière avec le Soudan du Sud. Les détails avec Mouamadou Oumfa.
Environ 25 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau alors qu'elles traversaient le Nil Bleu dans l'état du Sénart, a déclaré dans un communiqué le comité de résistance locale, sans préciser la date. Des familles entières ont péri en tentant de fuir, a ajouté le groupe pro-démocratie qui documente et organise l'entraide entre habitants. Les autorités locales de l'État de Guédaref ont estimé ce jeudi à 120 000 le nombre de déplacés arrivés récemment dans leur État, un État voisin du Sénat relativement épargné par les violences. Ce jeudi, les forces de soutien rapide ont affirmé avoir pris le contrôle d'une base militaire stratégique à Miram, dans l'État du Kordofan occidental, à quelques 60 km de la frontière avec le Soudan du Sud. L'armée soudanaise n'a pas répondu pour l'instant aux affirmations des FSR sur leur avancée dans cette zone riche en pétrole. Les FSR contrôlent déjà les frontières occidentales du Soudan avec le Tchad, la République centrafricaine et la Libye.
Le président sortant en Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été proclamé aujourd'hui officiellement vainqueur de la récente présidentielle par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a validé les résultats annoncés lundi par la commission électorale et donnant M. Ghazouani vainqueur dès le premier tour avec 56,12% des voix devant l'opposant historique Biram Da Abed, 22,10%, ainsi que le candidat islamiste Amadi Ould Sidi El Mokhtar, 12,78%. Le Conseil n'a été saisi d'aucun recours dans les délais impartis après l'annonce des résultats de l'élection de samedi, a dit sa secrétaire générale Aminata Mint El-Kales lors d'une cérémonie à Nouakchott.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche a rejeté la possibilité que Joe Biden retire sa candidature à un second mandat, malgré les inquiétudes sur son état de forme. Le président de 81 ans n'envisage absolument pas de jeter l'éponge, a affirmé sa porte-parole Karine Jean-Pierre après son débat avec Donald Trump. Les précisions de Blanche Sanou.
Je me suis plantée, j'ai fait une erreur, c'est 90 minutes sur une scène. Regardez ce que j'ai fait durant 3 ans et demi, a déclaré Joe Biden dans un entretien avec une radio du Wisconsin. J'ai été mauvais dans un débat, a répété Biden dans une autre radio en Pennsylvanie, ajoutant « Je serai dans la course jusqu'au bout et nous allons gagner ». Un élu démocrate de la Chambre des représentants, Raoul Grijalva, en Arizona, a été le deuxième à appeler Joe Biden à sortir de la course. Ces appels n'ont pas trouvé de relais parmi les gouverneurs démocrates, des figures influentes dans la vie politique américaine qu'il a réunies à la Maison-Blanche. Les gouverneurs démocrates vont le soutenir, ont assuré deux d'entre eux, Wes Moore du Maryland et Tim Walz du Minnesota. Le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, l'un des plus gros donateurs du Parti démocrate, a estimé que Biden devait jeter l'éponge pour permettre à un leader démocrate vigoureux de battre Trump. Joe Biden a prévu de donner demain une interview à la chaîne télévisée ABC et de tenir une conférence de presse la semaine prochaine pour prouver sa capacité à s'exprimer sans prompteur. Il se rendra aussi dans deux États décisifs, le Michigan, demain 5, et la Pennsylvanie, le 7 juillet.
Restons aux États-Unis où les Américains célèbrent ce jeudi 4 juillet leur fête nationale commémorant la signature de la Déclaration d'indépendance en 1776. C'est une journée de festivités avec des barbecues, parades et feux d'artifice dans tout le pays. Pour de nombreuses familles américaines, c'est aussi l'occasion de se réunir et de profiter d'un moment convivial. Les États-Unis estiment qu'Israël et le Hamas ont une opportunité importante d'arriver à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération des otages, selon un haut responsable américain ce jeudi. Le Hezbollah libanais a tiré aujourd'hui plus de 200 roquettes et lancé des drones explosifs sur le nord d'Israël, faisant redouter une nouvelle escalade militaire dans cette région en marge du conflit dans la bande de Gaza. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre segment économique avec Alexandrine Holognon.
Les sociétés Trafigura et Promarx ont signé un accord avec le gouvernement angolais pour développer un projet national de transmission et d'approvisionnement en électricité. Le projet envisagé est une ligne de transport d'électricité haute tension de 2000 MW pour acheminer l'énergie produite par les barrages hydroélectriques du nord de l'Angola vers la ceinture de cuivre de la RDC et la Zambie en s'intégrant au pôle énergétique de l'Afrique australe. C'est ce qu'a indiqué Trafigura. Le régulateur pétrolier du Nigeria affirme avoir prouvé deux ventes d'actifs onshore par des compagnies pétrolières internationales, ouvrant ainsi la voie à l'acquisition d'actifs par Oando et le nouveau venu Project Odin Mine. Les autorisations pour la vente d'actifs d'ExxonMobil et Seplat pour 1,3 milliard de dollars et pour la cession de Shell à Renaissance restent en suspens. L'Éthiopie recevra une aide de 10,5 milliards de dollars au cours des prochaines années si les négociations de longue haleine avec le FMI et la Banque mondiale aboutissent, a déclaré jeudi le Premier ministre Abiy Ahmed. Les analystes estiment qu'afin d'obtenir le soutien du FMI, l'Éthiopie pourrait devoir accepter de dévaluer sa monnaie BIR, qui s'échange au marché noir à un taux inférieur de 50% au taux de change officiel.
Merci Alexandrine pour ces informations économiques. Place à présent aux actualités sportives présentées par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Nanit, bonsoir à tous.
Les groupes pour les qualifications de la prochaine CAN Maroc 2025 sont constitués.
Oui, le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. La championne en titre, la Côte d'Ivoire, a été placée dans le groupe G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Le Nigeria, vice-champion, a été logé dans le groupe D avec la Libye et le Rwanda. L'Afrique du Sud, troisième de la dernière CAN, fera face à l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud dans le groupe K. Le Cameroun, cinq fois vainqueur de cette compétition, est dans le groupe J avec la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. L'Égypte, le Cap-Vert et la Mauritanie, ainsi que le Botswana composent le groupe C. L'Algérie, la Guinée équatoriale et le Libéria forment la poule E.
Le pays hôte est logé dans la poule B.
Le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022 et hôte et qualifié d'office, va quand même affronter le Gabon, la République centrafricaine et le Lesotho dans le groupe B. Le groupe L renferme le Sénégal, le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. Dans la poule I, on retrouve le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Dans le groupe F, le Ghana, l'Angola, le Soudan et le Niger s'affrontent. La poule H comprend la République démocratique du Congo, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Cette année, il y aura deux journées de qualification en septembre, deux en octobre et les deux dernières en novembre. Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe se qualifient pour la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.
Au Mali, Eric Sekouchel réagit à son limogeage à la tête de l'équipe malienne.
C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par l'ex-sélectionneur des Aigles. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
En tant qu'entraîneur de football professionnel, je me dois de réagir en professionnel. C'est pourquoi je suis contraint de faire valoir mes droits par des voies légales. Je suis malien et j'ai toujours œuvré pour ne pas humilier mon pays en divulguant mes difficultés sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on retient de son message posté sur son compte Instagram. L'ancien sélectionneur des Aigles du Mali dit ne pas aimer la façon dont il a appris son limogeage. Il dit d'ailleurs d'être surpris de l'apprendre à travers les réseaux sociaux. Malgré le contexte difficile, a dit Eric Sekouchel, de mai 2022 jusqu'à la date de son limogeage, il s'est donné à fond pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Et d'ajouter qu'il a décidé de garder le silence sur les défis rencontrés pour des raisons d'éthique, d'honneur et de dignité. Eric Sekouchel, dans son message, a également remercié le public sportif malien, les joueurs, toutes les équipes nationales et les autorités pour leur soutien. Il a enfin souhaité tout le succès possible à son successeur et d'y rester un fervent supporter des Aigles du Mali. Ce message d'Eric Sekouchel intervient au moment où Hamari Traoré, capitaine des Aigles du Mali, vient d'être suspendu par la Fédération malienne de football pour avoir dénoncé ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance du football malien. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Encore avec vous, Nanit Talani. Tournons maintenant notre attention vers nos dossiers du jour. Ici, aux États-Unis, ce 4 juillet est une journée importante pour les Américains qui commémorent la signature de la Déclaration d'indépendance de leur pays le 4 juillet 1776, tout en célébrant leur histoire et leurs valeurs. C'est l'heure des festivités patriotiques et l'occasion de se retrouver en famille et entre amis, de profiter du beau temps et de partager un moment convivial entre barbecue, parades et feux d'artifice, comme chaque année. Pour une petite immersion dans l'histoire, Jacques Aristide a joint le politologue américain Calvin Dark. Avec une pointe d'humour, M. Dark nous dit s'il faut inviter ou au contraire éviter la politique à table pour les repas de famille.
Aujourd'hui, le 4 juillet, c'est exceptionnel parce que c'est la seule fête qui est purement américain, c'est-à-dire qu'il y a des liens à une religion, à une culture. C'est vraiment le holiday, le jour férié pour tous les Américains pour fêter l'Amérique. Alors, je crois que c'est pour ça que tout le monde aime fêter le 4th of July, le 4 juillet.
Comment les Américains fêtent-ils le 4 juillet? Et vous-même, d'ailleurs, qu'avez-vous prévu de faire en cette journée?
Je crois que il y a deux choses qu'on peut faire pour le 4 juillet. Un, c'est le barbecue, le cook-out, ou voyager. Et même si on voyage, c'est au cook-out. Alors, on voyage pour aller au barbecue, on fait le barbecue, les gens viennent. C'est vraiment une fête de famille. Parfois, je rends visite à ma famille en Caroline du Nord, mais cette année, j'ai mes cousins qui vont me rendre visite à Washington. Alors, c'est vraiment la famille, la bouffe, la nourriture et le fellowship, comme on dit, d'être avec famille, avec le barbecue et avec surtout parce que c'est l'été, c'est bonne occasion de reposer un peu avec les proches.
Il s'agit donc d'une grande fête patriotique, parade géante, feux d'artifice. Et donc pour clôturer la soirée, à New York s'enflamme également, n'est-ce pas, avec le traditionnel feu d'artifice.
Oui, feu d'artifice, c'est vraiment important. Je dis pour ma famille, ça c'est ce qu'on va faire ce soir. J'ai déjà répondu aux questions de mes cousins qui vont rendre visite. Il y a des feux d'artifice. J'ai dit à New York, à Washington DC, il y en a. Et ça c'est vraiment le point fort pour moi pour le 4 juillet.
C'est donc l'occasion des grandes retrouvailles familiales dans un pays marqué toutefois par une forte polarisation politique. Pour les repas de famille, faut-il inviter ou au contraire éviter la politique à table?
Oui, le conseil est toujours, c'est éviter la politique et la religion, mais je crois que en 2024, c'est impossible, c'est inévitable. Et je crois que maintenant, surtout avec la discussion après le débat, il y aura beaucoup de discussions sur la politique, mais ça ne va pas être démocrate ou républicain. Mais je crois que beaucoup de familles vont poser la question sur l'âge. Parce que ça, c'est vraiment au centre de la question. Et je pense même à ma famille. On a des membres de ma famille qui ont des problèmes avec l'âge. Il y a beaucoup de blagues parmi eux. Et je crois qu'il y a beaucoup de familles comme ça. Et quand on parle de la politique et la question d'âge des deux parties, je crois que ça va être un moment pour les familles de réfléchir un peu de leur situation. Parce que c'est pas quelque chose juste pour les candidats à la présidence. Alors, je crois que pour ça, on va parler de politique. Mon conseil, c'est de l'éviter si on peut.
C'était Calvin Dark, analyste américain, directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion basé ici à Washington, D.C.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la justice militaire a condamné 27 militaires congolais à des peines allant de 10 ans de prison à la peine de mort. Ils ont été reconnus coupables de fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre et vol. C'était lors d'une audience foraine tenue à Alimbongo. Ce procès est différemment apprécié, comme nous l'explique notre correspondant dans la région, Zanem Netizaidi.
C'était au terme d'une audience foraine organisée par l'auditorat militaire des garnisons de la ville de Butembo à Limbongo, près de la ligne des fronts, que la sentence est tombée. Le porte-parole militaire de l'opération Front Nord, lancée contre le rebelle du M23, parle d'un procès exemplaire dont l'impact positif s'est fait déjà sentir. Le lieutenant Bouirigen.
Dans la soirée, nous n'avons vu aucun militaire sur les tronçons Kasséi à Limbongo, Lubero, a pris conscience que toute tentative de quitter les lignes de front sans un ordre préalable de sa hiérarchie constitue des poursuites judiciaires. Également dans les champs de bataille, et cela a encore un effet positif. Pourquoi? Parce que le militaire dira, si je fuis ou je quitte les lignes de front, j'aurai des poursuites judiciaires.
Avis partagé par le Cercle international pour la défense des droits de l'homme, Deliko Mbambu et son secrétaire exécutif.
La condamnation des 27 militaires est arrivée à point nommé parce qu'il est inadmissible qu'un militaire digne de son nom qui fuit la ligne des affrontements puisse arriver dans la société et commencer à crépiter des balles de manière à créer la peur dans la population pour qu'il lui permette de piller ses biens. Il faut qu'il soit poursuivi et condamné.
La société civile, quant à elle, estime qu'elle a tenu de cette audience est inopportune car elle décourage les militaires engagés dans les opérations contre les rebelles du M23. Georges Mouindo est acteur de la force vive à Butembo.
Ce procès rendu par le tribunal militaire faisant état de la condamnation des militaires FRDC semble quelque peu subjectif pour les raisons suivantes. La sentence se réalise sur les lignes de front en lieu et place du réconfort des troupes engagées. Le tribunal militaire vient décourager par ce procès les soldats qui pourtant ont enduré.
Le tribunal militaire de Butembo a tenu cette audience foraine à Limbongo, 20 km de la dernière ligne des fronts dans les territoires des Lubero. Sur les 31 prévenus, 25 militaires, dont un officier, ont été condamnés à la peine de mort. Un officier à 10 ans de réclusion et 4 femmes des militaires ont été acquittées. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Direction le Cameroun. Certains membres de l'opposition sont dans le collimateur du gouvernement à la veille des scrutins prévus en 2025 dans l'élection présidentielle. Hier, le ministre de l'administration territoriale a indiqué que le leader de l'opposition, Maurice Kanto, et le député Cabral Libi, arrivé troisième lors de la présidentielle de 2018, pourraient ne pas se présenter dans la course pour la présidence. Les précisions à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Julentap.
Une éventuelle absence de Maurice Kamto à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pourrait se justifier par le fait que sa formation politique, le MRC, a boycotté les élections locales de 2020 et s'est mise hors jeu au regard de la loi électorale. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, enfonce le clou.
Le mandaté du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Parce que la politique, c'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat. On vous donne une chance. Vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence, boycotter donc la chaîne présidentielle et tout.
Selon le calendrier électoral, de nouvelles élections législatives et municipales doivent se tenir en février prochain avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un tel scénario remettrait en course Maurice Kamto au cas où le MRC s'en sort avec des élus locaux. Mais au cours d'une récente sortie médiatique, Maurice Kamto a avisé sur un plan visant son éviction.
Au sein du régime, certains sont hantés par la perspective de la défaite du RDPC et n'en veulent pas de la tenue des élections prévues l'année prochaine dans notre pays. De fait, ils apparaissent comme des soutiens implicites de ceux qui appellent publiquement au coup d'État militaire pour éviter que la volonté du changement des Camerounais ne s'accomplisse en 2025. Il est urgent de stopper toute action visant à vicier les élections à venir avant qu'il ne soit trop tard.
Le gouvernement a réagi hier par une mise en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public.
Yves-Alain Maurice, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Nous sommes pour le respect de la loi. Le
candidat arrivé troisième à la présidentielle de 2018 est lui aussi à couteau tiré avec l'administration qu'il accuse de parti pris en pleine crise de leadership au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Cabral Libi, député.
Le sort qui a été réservé au simulacre de congrès que par entêtement aurait tenu l'ex-président national n'amène à rien du tout. Sinon, le ministre de l'administration territoriale lui aurait adressé une correspondance par laquelle il lui dit prendre acte des changements opérés au sein du parti. Parce que s'il le fait, ça veut dire que lui, ministre de l'administration territoriale, prend sur lui de bafouer et de ridiculiser la justice camerounaise.
Le ministre de l'administration, Paul Atanganji, a été sans équivoque.
On me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée. Sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique.
Si Cabral Libi est déchu de la présidence du PCRN, après saisine de la justice, l'élection présidentielle de 2025 pourrait s'éteindre sans les principaux challengers du candidat du parti au pouvoir. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Lorsque Harry et Eko van der Waal ont constaté les effets dévastateurs de l'épidémie du VIH-Sida en Eswatini, ils ont quitté l'Ohio aux États-Unis en 2004 et sont partis mettre en place un service de soins de santé gratuit dans ce pays. Aujourd'hui, leur organisation à but non lucratif, Value Commission, fournit des soins médicaux à plus de 300 000 patients par an dans l'Eswatini rural. Un reportage de Nekukanya Moussi, le récit est de Thierry Kaoré.
Au milieu de la pandémie du VIH-Sida des années 2000, le système de santé de l'Eswatini était débordé. Selon les chiffres de l'ONU-Sida, 25% de la population adulte était infectée avec un accès limité à des traitements. Constatant le besoin urgent dans l'Eswatini rural, Eko et Harry van der Waal, venus de l'Ohio, ont créé la commission LUC TLC. Financée par le gouvernement américain par l'intermédiaire du plan présidentiel d'aide à la lutte contre le sida, PEPFAR, de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et de la Free Wheelchair Mission, TLC fournit chaque année des services de santé gratuits et de qualité à plus de 300 000 personnes défavorisées dans les régions rurales de l'Eswatini. Sibusiso Wolf est l'un des nombreux patients dont la vie a été transformée par TLC. Pendant des années, il a souffert de douleurs chroniques à la hanche.
Je me suis référé à la vie que je menais auparavant et j'ai vu mes amis avancer. Ils progressaient dans la vie et je n'avançais pas. J'ai été ravi de recevoir un appel de TLC qui m'a dit « Vous savez quoi? Nous avons une solution à votre problème, la pose d'une prothèse de hanche. C'est une opération très coûteuse. Sachant que je n'avais pas à payer un centime, j'étais très content. »
D'autres habitants comme Gabriel Shiba, une personne âgée, ont retrouvé l'espoir avec TLC.
Vous allez dans d'autres hôpitaux, ils vous diront « Nous sommes encore en train d'appeler un médecin, attendons. » Nous avons perdu beaucoup de vie là-bas, mais ici, il y a un médecin tous les jours. On peut même pleurer parfois ici, lorsqu'on vous lave à l'eau chaude le matin. Il n'y avait que ma mère et mon épouse qui m'avaient lavé jusque-là.
Arrivé à Eswatini au plus fort de l'épidémie du VIH en 2004, le couple américain s'est concentré sur l'élaboration d'une stratégie pour apporter des soins de qualité aux personnes les plus isolées en Eswatini.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique et aussi à la production pour leur contribution. Au micro, Nani Talani, à la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagno. Pour rester informé 24 heures sur 24, nous vous invitons à visiter notre site internet VOA Afrique et à nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous dis au revoir et à bientôt.